Bonjour, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, on s'intéresse à l'art de vivre à la suédoise, un art de la simplicité, de l'équilibre, de la modération, du ni trop, ni trop peu, un art de la modération joyeuse, de la simplicité assumée. À quoi ressemble l'art de vivre suédois en matière de consommation, d'éducation, de lien social, de vie familiale ou encore de vie professionnelle? Pourquoi la Suède fait-elle partie des pays où la majorité de ses habitants expriment un grand niveau de bien-être? Et vous, dites-nous si cet art de vivre suédois vous attire, ou vous ennuie profondément. Grand bien vous fasse à radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook. Et pas de standard ce matin en raison d'un mouvement de grève. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. On vous retrouve en fin d'émission. Quoi de neuf à la une du 1?
Le suprémacisme blanc et le racisme vu des tribunes notamment.
A tout à l'heure.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Avec nous ce matin, premier témoin. Bonjour Leandro.
Bonjour.
Vous avez 23 ans, vous êtes étudiant en sciences politiques. Votre mère est suédoise et votre père chilien et vous vivez à Paris depuis 3 ans. Alors en cette rentrée, beaucoup de livres en librairie sur l'art de vivre à la suédoise avec des ouvrages qui contiennent le mot « lagom » dans leur titre. Est-ce que je prononce bien, Leandro? Lagom, ça s'écrit L-A-G-O-M. Comment ça se prononce?
Oui, ça va, vous avez plus ou moins bien prononcé.
Alors, comment vous le prononceriez-vous?
C'est bien. Lagom.
Lagom, d'accord. Alors, c'est quoi pour les Suédois le lagom? C'est n'en faire ni trop, ni trop passé, c'est ça?
C'est un peu ça, c'est un concept qui est un peu difficile à expliquer peut-être, mais c'est vraiment ça, c'est ni trop, ni pas assez, c'est un peu sans exagération, la quantité parfaite de quelque chose, la modération, l'équilibre, ne pas être dans l'excès, je pense. Et je pense que c'est un concept qu'au final on retrouve dans plein d'aspects différents de la vie quotidienne des Suédois. Je pense que c'est un peu peut-être lié avec l'idée d'égalité aussi, parce que avec la notion d'équipe, parce que l'org en suédois ça veut dire équipe, donc c'est peut-être qu'il y ait assez pour tout le monde en fait, donc de pas en faire trop. Quelque chose.
Quelles sont, Leandro, les réminiscences de ce mode de vie suédois à Paris?
Pour moi personnellement, vous voulez dire?
Oui, chez vous, par exemple, à la maison.
Alors, je pense que ça peut prendre son expression, par exemple, au niveau de l'équilibre dans la vie sociale. Et par exemple, ici en France, on aime beaucoup les discussions un peu passionnées, on aime être dans la provocation, dans la confrontation, quand on discute sur différents sujets, que ce soit politique ou pas. Et en Suède, on a un peu du mal avec ça, on essaie plutôt d'éviter les conflits. Je dirais qu'on a même un peu peur des conflits parfois. Mm-hmm. Et ça fait que peut-être on essaye de pas trop ressortir dans certains contextes sociaux. Mais après, ça peut être positif, par exemple, quand on voit la politique suédoise, où on cherche plutôt le consensus, le compromis, plutôt que la confrontation. Après, pour moi, personnellement...
À la maison, par exemple.
Parfois, le lorgom, ça peut être juste de mettre fin à ma journée de révision, plutôt que prévu, pour boire un café, pour faire un fika, parce que je considère que c'est bon, j'ai assez travaillé pendant la journée.
C'est quoi le fika? Leandro, c'est quoi le fika?
Le fika, c'est comme une pause café, mais où on mange quelque chose, on boit un café, ça peut être un peu à n'importe quel moment de la journée.
Mmh. Mais qu'est-ce que ça a de particulier?
Comme un goûter, en fait. Ça pourrait être un peu peut-être comme un apéro, je sais pas.
Qu'est-ce que ça a de particulier? Parce qu'en France, on prend aussi des pauses café. C'est quoi le fika, la suédoise? C'est quoi le particularisme?
En fait, c'est pas très, très spécial. Plus, je pense que socialement, c'est vraiment un moment où on arrête ce qu'on est en train de faire et on se réunit autour d'un café, autour de quelque chose à grignoter. Et ça rejoint justement cette idée de l'ordre, je pense, d'équilibre dans le travail et dans la vie sociale, de faire des pauses, de savoir...
Bonjour Anne Toutmieux, vous restez avec nous. Bonjour, Leandro, vous publiez le livre du lagom, l'art suédois du ni trop ni trop peu. Premier commentaire sur le témoignage de Leandro.
Il a tout dit, il est parfait, c'est exactement ça. Il a dit les mots clés que sont le compromis, le consensus, ni trop ni trop peu, puis le fika, qui est assez central dans la vie des Suédois, je l'ai appris en réalisant cette enquête. Non, vous avez très bien résumé. Après, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les détails concrets.
Alors, ce qui est étonnant, tout mieux, c'est que dans votre enquête sur l'art de vivre suédois, beaucoup de Suédois ont eu du mal à vous expliquer ce que c'était le logom qui nous occupe ce matin. Par exemple, par courriel, un auditeur affirme que le logom n'est pas une culture ou un mode de vie, mais plutôt l'incapacité intellectuelle à décrire un fait, une situation de façon précise.
Ah, ça, c'est assez surprenant et original.
C'est ce qu'on a reçu comme courriel ce matin.
C'est assez vrai. C'est-à-dire qu'au début, en fait, j'ai voulu dans ce livre donner la parole aux Suédois. Et c'est vrai qu'au départ, la plupart me disaient mais tous voient très bien ce que c'est que le logom, mais enfin, qu'est-ce que vous allez faire un livre là-dessus ? C'est tellement dans leur ADN, c'est tellement dans leur culture qu'au départ, ils avaient du mal. Donc c'était le travail d'aller chercher dans le récit de chacun les détails que nous, on allait pouvoir s'approprier en France pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans ce qui fait l'art de vivre suédoise.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil.
Bonjour Ulrika Dezé, vous êtes pédagogue, chercheuse en sciences de l'éducation, professeure de yoga, née en Suède. C'est un peu ça l'esprit du logom, il en faut peu pour être heureux.
Oui, c'est ça, mais je rajouterais aussi que ça n'empêche pas à chacun, qu'il soit enfant ou adulte, d'avoir bien sûr de l'ambition. C'est-à-dire que, parce qu'on pourrait penser, venant de la France, que l'orgum c'est juste l'équilibre, bien sûr, c'est très important l'équilibre, mais bien sûr, dans cet concept, on a aussi le besoin de réussir, mais réussir ensemble. Je dirais que c'est vraiment la spécificité du logom. On est en fait, c'est pour ça que c'est un peu difficile pour vous d'expliquer ce terme, parce que c'est vraiment imprégné dans les familles, dans la vie de tous les jours, le fait d'être attentif à son propre équilibre, à celui de l'autre, celui qui est proche de nous, et aussi de la collectivité.
Anne Toumieux, c'est ce que vous avez constaté dans votre enquête pour votre livre ?
Oui, en fait, c'est vraiment un point central qui diffère effectivement entre la Suède et la France, c'est d'avoir toujours à l'esprit les autres. Et en fait, pour savoir si on est la gomme ou si on veut faire des choses la gomme, à part appliquer à la lettre les principes du livre, il faut simplement penser aux autres. L'exemple le plus facile, c'est par exemple, on est à la plage. Si on pense qu'il y a des gens qui vont passer derrière, on va pas laisser son mégot, on va pas laisser des déchets. Les Suédois, ils ont ça en tête. La nature est au premier plan, par exemple, le respect de la nature, c'est un truc qui est complètement dans leur gène. Ils savent qu'il y a d'autres gens, mais des gens dans l'heure qui suit, mais aussi des générations après qui vont venir. Donc penser aux autres, c'est vraiment la clé. Le côté collectif, effectivement, comme le disait Ulrika, c'est tout à fait ça.
Leandro, ça vous parle, ce qu'on vient de dire ?
Oui, tout à fait. Je me reconnais complètement.
Alors, il y a un auteur suédois, Jonas Gardell, qui a attribué un surnom à la Suède, le pays du lait demi-écrémé. Ni trop gras, ni trop maigre. Et c'est dans le titre de votre ouvrage, Anne Toumieux, la Suède, le pays du ni trop, ni trop peu. Évidemment, on va essayer de ne pas être caricatural ce matin. Pour moi, ce ni trop, ni trop peu, ça peut évoquer l'art du tiède, du beige, du mou, du ça me suffit. Est-ce que cet art de vivre à la suédoise ne glorifie pas un peu la médiocrité ? Alors, je suis un peu polémique à la française.
Bien, hein. Mais vous faites bien, et d'ailleurs on avait anticipé, parce que le mot médiocre il est un petit peu souvent utilisé de manière négative, alors qu'en fait il veut juste dire moyen, si on revient à l'origine du mot. Donc oui, c'est un petit peu l'éloge de la médiocrité, mais en fait, moi j'ai consacré un paragraphe entier dans le livre justement à dire le logom, est-ce que c'est pas ennuyeux ? Parce qu'effectivement les détracteurs peuvent dire, oh là là, nous on aime l'excès, et puis après tout, zut alors, ils sont bien gentils, les Suédois ils ont tout bon, c'est un peu rasoir.
Zut alors, c'est très suédois. Zut alors,
oh, je suis très fâchée. Mais l'idée en fait du logom, c'est de, ça va paraître un peu, de réenchanter le quotidien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met plus dans la moyenne, on va garder les moments, entre guillemets, d'excès, parce qu'ils en font aussi, mais l'excès de temps en temps, pour que ça reste exceptionnel. C'est comme le luxe, ils n'ont pas une envie de démesure, mais ils vont aimer quand même s'acheter de beaux vêtements. Ou Ulrika me disait hier, quand on en discutait, ils aiment montrer qu'ils ont peut-être les plus beaux rideaux de la rue. Alors vous voyez, ils aiment montrer, mais toujours d'une manière plutôt polissée, et que ça reste exceptionnel. Et c'est ça qui réenchante.
Ulrika Dezé, sur ce réenchantement du quotidien.
Oui, par exemple, ça va se manifester dans l'intérieur de la maison. Hein, la première chose, je dirais, étant donné que le climat est rude, même si on a des très beaux étés aussi, mais même l'été, on va accorder du temps, de l'énergie, à trouver des jolis objets qui vont faire que notre quotidien va être plus agréable pour soi-même et pour les autres aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça imprègne la société. Donc des jolis objets, une maison confortable pour accueillir aussi les amis, les enfants de ses amis. On pense aussi à la décoration, mais pas comme quelque chose d'égoïste, entre guillemets, mais comme quelque chose qu'on veut partager avec les autres.
Léandro, je crois savoir qu'il y a une micro-bataille chez vous à la maison avec votre copine concernant la décoration.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est mon ex-copine, mais bon, c'est pas grave. Tout à fait, moi je suis plutôt adhérent à une décoration plus minimaliste, à les styles nordiques, on va dire, mais c'est pas volontaire, ça vient tout juste tout seul, alors que ici en France, je pense qu'on aime bien décorer un peu plus généreusement, peut-être.
Merci beaucoup Léandro pour votre témoin. Alors Anne Toumieux, comment expliquer cette floraison de livres sur l'art de vivre suédois en cette rentrée? C'est une vaste opération marketing orchestrée par le gouvernement suédois. Là, je sais, je suis un peu complotiste. Là.
Oui, c'est ça. En fait, c'est la suite logique d'une grande tendance de fond. On peut penser que ce sont des petites tendances comme ça, rigolotes. On a vu le hygge l'année dernière, l'art d'être heureux par les Danois. Voilà, la Danoise. Alors on se dit, ah bah tiens, voilà, maintenant c'est à la suédoise, et puis quoi après? Alors le hygge, c'était un peu se focaliser sur des petits plaisirs au quotidien. Le logom, je trouve qu'il y a plus de fond, c'est vraiment une philosophie, ça s'applique comme on l'a vu dans tous les domaines, dans le travail, on va en parler.
Dans l'éducation, dans la consommation.
Exactement, dans la consommation, c'est très important. Et en fait, l'idée, c'est finalement, ça répond à une quête de sens qui est profondément en train de se manifester aujourd'hui.
Julien Bisson, grand connaisseur du milieu éditorial.
Oui, je pense aussi qu'il y a une forme de recherche un peu mimétique des éditeurs. On sait très bien que les éditeurs se recherchent, je sais pas, dans la foire de Francfort par exemple, ils voient bien comment les traductions marchent dans différents pays et vont aussi aller chercher un petit peu quelle est la nouveauté qui va peut-être être intéressante. Donc après le hygge, ça, en effet, le logom, c'était le feng shui il y a quelques années. En tout cas, ça montre bien une curiosité pour aller chercher d'autres arts de vie.
Moi, ce que je trouve intéressant, parce que justement là, on est sur de la consommation, on voit bien que tout ça, c'est vraiment une tendance lourde
de fond.
Hein, on voit bien que les gens veulent consommer moins, mais mieux, c'est exactement ce que dit le logom. On voit bien que les gens cherchent à donner du sens à leur consommation, à être des consommateurs. Et tout ça, c'est le logom. Donc après, la slow life, c'est-à-dire prendre plus de temps, se détacher un peu de toute cette pression sociale. Là, en fait, les gens en ont marre de consommer comme des crétins parce que simplement, on leur dit de le faire. Là, il y a vraiment une recherche. Et comme tout ça, c'est exactement ce que dit le logom, en toute logique, c'était le moment...
Ce n'est pas une tendance superficielle.
Non, voilà. Je pense ni chez nous... ni en Suède, donc c'est...
Question, réaction, grand bien vous fasse à radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook. C'est préparé par Alexia Rivière et Claire Destacan et par notre journaliste Théo Delmat avec l'aide d'Antoine Vandeville et c'est réalisé par Eric Lenné. Madonna qui fait danser Eric Lenné en régie Hang Up.
Enfin, qu'est-ce que c'est que cette crise d'hystérie ?
Grand bien vous fasse.
Faire confiance, apprendre à patienter, gérer les excès de colère.
Sur France Inter.
10h24 et on s'intéresse ce matin au lagom, cet art de vivre suédois du ni trop ni trop peu, un mode de vie qui célèbre la simplicité et la modération joyeuse. Anne Toumieux, je rappelle que vous publiez un ouvrage sur le sujet. Sans être trop caricatural, c'est un art de vivre qui vise donc une vie sans extrême, sans à-coups, sans trop d'exubérance.
Ou en tout cas, l'exubérance reste l'exception. C'est pour ça que c'est pas ennuyeux. Hein. Évidemment qu'on peut se faire plaisir, et ils aiment se faire plaisir, mais si ça devient le quotidien, c'est là où ça devient ennuyeux. Si tous les jours on met des paillettes, c'est plus drôle, on garde les paillettes pour de temps en temps.
Ulrika Dézé, je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation et professeure de yoga. La Suède est donc un pays réputé comme étant l'un des plus égalitaires au monde. Dès l'école, on encourage cet art de vivre, cette modestie, cet art de la conciliation, de la coopération, et dans le même temps, on décourage peut-être également l'ambition démesurée ou bien la concurrence effrénée. Est-ce que je suis dans le juste ?
Oui, tout à fait. Je pense que dès l'enfance, à la fois en famille et aussi à l'école, on n'encourage pas la compétition. On va dire qu'elle existe, bien sûr, naturellement, mais elle n'est pas mise en avant. Les notes, par exemple, à l'école vont venir beaucoup plus tard. Voilà, c'est le dialogue qui prime aussi en classe. On va vraiment favoriser le travail de groupe plus que le travail individuel. Ça, ce sont vraiment des grandes différences, je pense, par rapport au système scolaire français. Mais oui, de façon générale, le bien-être aussi à l'école est quelque chose de fondamental. Dès l'école, dès la crèche, dès l'école maternelle.
Un tout mieux.
Oui, oui, c'est un peu Ulrika qui m'a tout appris sur le sujet. C'est vrai que on sait bien que l'école suédoise a très bonne réputation et qu'on ferait bien de s'en inspirer. Et Ulrika m'avait dit, pour nous, Montessori, donc les écoles Montessori, qui justement privilégient l'éveil par le jeu, par la curiosité, etc., par les sens aussi. Pour nous, Montessori, c'est tous les jours. C'est-à-dire qu'en Suède, il faut savoir que l'école, entre guillemets, l'école du coin, l'école publique, met en place ces outils qui ici sont souvent réservés malheureusement aux plus chanceux. En Suède, tout le monde a accès à ces outils-là effectivement à l'école.
Bonjour Alexandre Jost.
Bonjour Ali.
Directeur de la fabrique Spinoza, un mouvement qui célèbre le bonheur citoyen. Votre premier regard sur ce lagom, cet art de vivre à la suédoise, basé sur la simplicité, la modération.
Moi, ça me plaît beaucoup et ça m'évoque une réflexion qui est que on a finalement des représentations du bonheur qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Quand on interroge les gens pour savoir quelles sont les émotions qui comptent le plus pour eux, on s'aperçoit que si on est en France, on a des mots tels que plutôt être content. Si donc on est en Suède, c'est peut-être une forme de joie modérée. Si on est en Asie, c'est plutôt de la sérénité, quelque chose de très très peu activé en termes d'émotions. Et si on va dans des pays anglo-saxons, c'est plutôt de l'enthousiasme. Ce qui veut dire que finalement, chaque culture a sa propre manière d'exprimer et de valoriser les émotions. Et je trouve ça intéressant d'après prendre du recul et se dire de manière universelle, eh bien, l'homme est d'autant plus heureux qu'il a une palette élargie d'émotions. Ça, c'est Ilona Boniwell qui nous dit ça. Et je vais prendre un contre-pied par rapport à ça. Chez les Esquimaux, la colère est bannie. Parce que pendant un hiver rude, c'est peu dire, eh bien, si deux personnes se mettent en colère et que ça dégénère en un conflit, alors c'est ces deux personnes, voire le clan, qui peut mourir. Donc, jusqu'à un âge très avancé, en fait, ou même toute sa vie, on ne se met pas en colère. Et je trouve intéressant de se poser la question, qu'est-ce que, dans notre pays, à l'intérieur d'une certaine couleur culturelle, qu'est-ce que je m'autorise à faire sortir, à révéler comme émotion, de telle sorte à être un être humain complet? Et finalement épanoui parce que tour à tour j'ai de la colère, j'ai de la frustration et puis j'ai de la joie, la sanité, je saute en l'air, etc.
Un tout mieux.
Oui, c'est vrai. J'en ai déjà parlé. En Suède, il y a ce côté l'hiver rude. En fait, je rebondis. La Suède donc a un climat qui peut être un petit peu difficile. Et je pense que ça participe à avoir forgé cette particularité culturelle de solidarité. C'est-à-dire que quand on est tout seul dans sa maison et qu'on n'a pas vu la lumière du jour parce que le soleil s'est pas levé, bah on est bien content de trouver son voisin pour un petit fika, justement un petit café gourmand.
Ulrika Dézé,
oui.
Sur cette solidarité inscrite presque dans les gènes des Suédois.
Oui, c'est je pense que je vais rebondir aussi sur ce qu'a dit votre invité tout à l'heure. À la fois, on est solidaires et en même temps, c'est quand même lié, étant aussi moitié française, je pense que c'est lié aussi au fait qu'on a un peu peur des conflits. Hein. Donc en fait, ne pas vivre cette émotion difficile qu'est la colère.
Désamorcer.
Voilà, pour la désamorcer, on va vraiment faire le maximum pour que tout se passe bien, pour que tout le monde soit à l'aise.
Bienvenue à Retuna, le premier centre commercial du monde à ne vendre que des objets recyclés. 11 boutiques de vêtements, de meubles, de déco. Annie Hilson, par exemple, fabrique des lampes à partir d'objets du quotidien qu'elle détourne.
Voilà par exemple un vieux mixeur. J'ai simplement enlevé le moteur et j'y ai mis une ampoule.
Des milliers d'objets dont les gens ne se servent plus et que les commerçants vont retaper au fond de leur boutique-atelier. La récup, vue comme un mode de fonctionnement rentable, à visée commerciale.
Le plus important quand vous voulez ouvrir une boutique ici, c'est de vouloir gagner de l'argent et sauver le monde à la fois.
Un extrait du JT de France 3 en 2017. Alors, consommer raisonnable et écolo, c'est au cœur de l'art de vivre suédois, moins consommer et surtout mieux consommer, Anne Toumieux.
Oui, alors ça, c'est vraiment le pilier, je veux dire, du Lagom. C'est effectivement commencer par se contenter de ce qu'on a. Ne pas être dans l'achat compulsif, pourquoi pas, de temps en temps, hein, on peut craquer sur un objet, mais en tout cas, le désencombrement des penderies est un levier de Lagom qu'on pourrait bien adopter en France. Donc effectivement, on consomme moins mais mieux, ce qui veut dire moins en quantité, mieux en qualité, mais aussi d'une manière plus juste. C'est-à-dire que cette histoire de milieu, c'est pas seulement moins de jeans, ça veut dire des jeans où on va faire attention à la manière dont ils sont produits, est-ce qu'ils sont toxiques, voilà. Et en fait, tout ça, si on prend en compte la manière dont sont fabriqués les produits, hein, c'est pas que la mode, hein, ça peut être une commode, n'importe quoi. Si on regarde, si on prend le temps, comme le font souvent les Suédois, de regarder l'engagement de la marque, on va nécessairement aller vers des choses qui sont un peu plus chères, donc on va en acheter moins. Et on va être plus éthique et dans une consommation plus éco-responsable.
Donc la consommation ostentatoire, prétentieuse, qui pourrait susciter l'envie, c'est pas vraiment la norme la plupart des Suédois.
Pas
Soyons
du tout.
Un peu nuancés tout de même.
Alors oui, non, mais effectivement, mais vous avez mis vraiment le doigt sur quelque chose. Susciter l'envie, c'est exactement ce que le Suédois va détester. C'est-à-dire que ce serait vraiment très mal vu. On m'a donné beaucoup en exemple quand j'ai fait ce livre. On m'a souvent dit le Suédois va pas acheter la plus grosse voiture ou avoir la plus grosse maison de la rue. Il va avoir pas forcément, pas la plus petite, hein, on est d'accord, mais pas la plus grande parce que ça pourrait mettre mal à l'aise les voisins. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pas faire étalage. On va porter quelque chose de cher, on va avoir des bijoux, évidemment. On va avoir une belle voiture, on se fait plaisir, mais on veut pas écraser les autres. Vraiment, on veut être dans la masse. Voilà, bien, avoir ce qu'il faut, juste ce qu'il faut.
Alexandre Jost.
C'est, pour moi, ça, ce que ça m'évoque, c'est un triangle, un drôle de triangle entre matérialisme, mort et bonheur. Si on demande à des gens d'écouter, de lire un texte sur leur propre mort, qui a été rédigé pour leur faire un peu peur, on voit que immédiatement après, eh bien, ils ont une pulsion d'achat et une invitation au matérialisme. Et inversement, lorsque les gens sont heureux, alors ils sont plus portés vers les biens relationnels plutôt que vers les biens matériels. Et là-dessus, il y a tout un champ de recherche qui suggère que l'utilisation intelligente de son argent, eh bien, c'est plutôt d'aller faire un bon repas ou un repas modéré avec ses amis que de l'utiliser dans un objet qui est ostentatoire, même si il amène un statut social et que le statut social, en France, en tout cas, il fait du bien.
Ulrika Dezé, on est plutôt dans le vrai, dans cette manière de consommer écolo et durable à la suédoise, on est plutôt dans le vrai ou pas ? Ou dans la caricature ?
Non, je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que on intègre l'écologie dans le quotidien. C'est vraiment ça aussi le logo. Ça veut dire ce n'est pas quelque chose qui va être imposé par l'État, enfin, même si ce sont des lois, bien sûr, qui vont nous engager dans ce sens de l'écologie, et aussi des raisons économiques, l'écologie fait partie de la vie quotidienne d'une façon positive. Dans la maison, par exemple, on va pas avoir ce phénomène, peut-être, qu'on aurait plutôt en France, dire « Oh mince, il faut encore que je trie les poubelles, c'est pas pratique, etc. » Vous voyez, c'est quelque chose qu'on apprend comme jeune enfant. On sait que c'est bien pour la planète. Et la Suède veut aussi être un modèle pour l'ensemble de la planète, n'est-ce pas ?
Alexandre, c'est amusant parce que l'écologie, en France, j'ai le sentiment qu'elle est identitaire. C'est-à-dire que, oui, elle a du sens, mais elle finit par être un statut. Vous savez, c'est cette personne végétarienne que vous rencontrez et chez qui vous sentez un jugement. Et je trouve, et d'où ça vient ? On est encore un pays de l'Ancien Régime dans lequel toute posture, enfin toute vue du monde finit par nous caractériser et être un moyen d'être ceci plutôt que cela par rapport à l'autre.
Anne, tout mieux.
Moi, je veux rebondir parce qu'en fait, dans le livre, il y a une grande partie consacrée à la nature, dans le chapitre des loisirs. Et en fait, toutes les personnes que j'ai interviewées pour ce livre, que ce soit dans le chapitre travail, que ce soit dans le chapitre mode, que ce soit dans le chapitre sur la gastronomie, toutes à 100% m'ont parlé de la nature. Et en Suède, il faut savoir, Ulrika en parlera peut-être encore mieux que moi, il y a ce qu'on appelle le droit à la nature. Et ça, j'ai trouvé ça absolument fantastique. C'est-à-dire que tout ce qui est mais un jardin, comme un champ, comme les Suédois ont le droit de traverser ce champ, de s'y promener, de se promener dans les forêts. Et donc, en fait, la nature, elle est à soi. À partir du moment où elle est à tout le monde. Donc je pense que c'est comme ça que tout le côté écolo coule dans leurs veines. C'est qu'à partir du moment où, dès petits, le week-end, on va cueillir des baies, on va... Parce qu'en plus, ça, c'est pas du tout fantasmé. Hein. Moi aussi, ils me l'ont tous dit. Moi, je pensais, je me disais, attends, ils vont cueillir des champignons, ouais, ça va. Non, non, ils le font vraiment. Ils le font vraiment. Et donc forcément, quand on a fait ça toute son enfance, plus tard, on sait que la nature, il faut la respecter. Et donc, naturellement, on va se tourner vers l'écologie, mais sans même se poser la question.
Alors, je vous lis un courriel moyennement logom envoyé par Vincent, qui nous dit « J'ai vécu 3 ans en Suède avec ma famille. Tout ce que j'entends manque totalement de nuances et surtout de profondeur dans l'analyse. Merci. La société suédoise est bien plus en souffrance qu'il n'y paraît. La différence, c'est qu'il est très mal vu de s'exprimer, d'exprimer des sentiments négatifs aux autres. La solidarité familiale y est quasi inexistante. Les gens sont pressurisés par une sorte de morale qui se veut être à l'avant garde, mais au fond, la solitude y est endémique, le taux de suicide très important. Il suffit de voir les cuites que se prennent les Suédois les vendredis soirs pour comprendre qu'il y a un gros malaise. Anne, tout mieux sur ce mail de Vincent.
Oui, alors bon, lui non plus n'est pas complètement dans la nuance, hein, si je puis me permettre. Tout ce qu'il dit est aussi vrai que tout ce que nous disons. C'est-à-dire que, comme partout, tout existe. Hein. Nous, on a choisi, évidemment, d'aller chercher le côté positif des choses qui sont réelles, pour s'en inspirer. Tout ce qu'on pouvait piquer aux Suédois de positif et d'intéressant, ça ne veut pas dire que tous les Suédois sont heureux, que les Suédois ne sont pas stressés. Et là où il a raison, je trouve, c'est qu'évidemment, il y a des Suédois qui sont peut-être oppressés. Hein, plus la mondialisation, même s'ils sont un peu en marge, évidemment qu'ils ont envie peut-être d'autre chose pour certains, mais globalement, nous, on a été chercher ce qui peut nous inspirer pour vivre mieux.
Mais comme vous auriez fait un livre sur la Dolce Vita italienne.
Oui, alors voilà, exactement, c'est comme nous. Évidemment, les Français ne se baladent pas avec un béret, un camembert et une baguette à 7h du matin et un verre de rouge. Enfin, pour certains, peut-être. Donc forcément, on passe par des généralités. Mais en tout cas, moi, j'ai interviewé des Suédois et c'est la particularité de ce livre pour justement essayer de trouver une vérité là-dedans. Il a raison, effectivement. On sait bien qu'ils sont un peu déprimés, les Suédois, parce qu'ils manquent de lumière. Bon, l'un n'empêche pas l'autre.
Julien Bisson, rédacteur en chef du...
Oui, moi, ce qui me frappe, c'est que j'aime toujours aller voir l'arrière-salle des boutiques. Et donc, pour aller voir l'arrière-salle, généralement, j'écoute les écrivains. Et quand on lit les écrivains suédois, c'est pas exactement... Ils ne présentent pas une société très logom. Quand on lit notamment quelqu'un comme Karl Ove Knausgård, qui est norvégien, mais qui vit en Suède depuis plusieurs années, il fait dans ses romans autobiographiques un portrait de la Suède qui est assez cruel, où il montre que derrière ce côté bien-pensant, un peu tiède, il y a aussi une forme de déprime totale, quelque chose qui brise les individualités qui détruit la pensée, la créativité artistique.
Ou dans Millennium de Stieg Larsson.
Et puis ensuite, il y a les polars. Les polars suédois nous montrent la réalité d'une société qui est certes sans doute très douce pour beaucoup une grande partie de sa population, mais qui laisse de côté les populations les plus précaires dans Millennium, chez Valander, vous savez, le héros de Henning Mankell. Ce sont aussi des polars qui montrent la xénophobie, le racisme et les dérives vers la drogue aussi de nombreux habitants suédois.
Alexandre Jost.
Finalement, je pense qu'il faut reconnaître les mérites du système suédois, c'est de générer un sentiment de liberté malgré tout assez important, plus fort qu'en France et notamment grâce au système éducatif. Après, reconnaissons qu'il y a quand même une norme et le taux de suicide en Suède aujourd'hui, il est le 46e pays où on se suicide le plus. Et donc, moi, l'invitation que je nous donne, c'est quelle que soit notre culture, c'est à nous émanciper de ces normes et à réfléchir à quelle est notre capacité à être vraiment à l'intérieur d'un système qui nous invite à être d'une certaine manière.
Ça me fait penser un petit peu au Japon. Le Japon, on peut dire exactement la même chose. Il y a les deux faces de la médaille. C'est-à-dire que, évidemment, on va parler de zen, de tout ça, tout ce qui est culturel, tout ce qui est traditionnel. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas que le reste existe. Moi, je sais que le reste existe. Mais on a choisi de souligner toutes les choses qui nous... Alors, pas que en France, mais tous les gens qui voudront bien lire le livre pourront y trouver, y piocher des petites choses. Et ça ne veut pas dire que tout est parfait en Suède, évidemment.
Ulrika Dezé, sur le courriel de Vincent.
Oui, je pense que comme dans toute société, il y a évidemment des extrêmes. Et je pense que les Suédois sont bien conscients qu'il y a des limites à cette société de l'orgue. Et on peut le vivre intérieurement aussi, parfois en étant inquiet dans la normalité. Mais je pense que cette inquiétude, on la retrouve aussi en France, n'est-ce pas? Donc dans tout système, il faut rechercher les choses positives. Et je pense que la Suède, dans ce sens-là, peut nous donner des outils. Mais bien sûr, il faut toujours garder cet esprit critique. Je pense qu'il est positif aussi.
En fait, dans le monde du travail, la distance hiérarchique est très faible en Suède. Ce qui veut dire que cette invitation à ne pas sortir du lot, elle se manifeste par le fait de ne pas être écrasé par sa hiérarchie. Et je trouve que ça, par rapport à nos institutions et nos entreprises pyramidales, plutôt en France, c'est une autre source d'inspiration pour être plus apaisé au travail.
On y reviendra tout à l'heure. Questions, réactions, grand bien vous fasse à radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook. C'était Bror Gunnar Jansson.
Après mûre réflexion, j'ai pris la décision de t'offrir du bon temps.
Grand bien vous fasse.
Et mon omelette norvégienne.
Qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute ?
Sur France Inter.
Et on s'intéresse à 10h43 au lagom, cet art de vivre suédois du ni trop ni trop peu, un mode de vie qui célèbre la simplicité et la modération joyeuse. Alors on a encore un mail de Bertrand qui nous dit « Je vous invite à vous rendre quelque temps en Suède, vous vous rendrez vite compte que le quotidien y est moins angélique et formidable qu'on l'imagine depuis la France. La modération joyeuse est d'un ennui profond, très peu créative, aucune fantaisie, rien ne doit dépasser. » Anne Toumieux, vous avez écrit un livre sur cet art de vivre suédois, le livre du lagom.
Comme on l'a dit, peut-être qu'il le vit mal et clairement, il y a certainement des gens qui vont plus se retrouver dans ce mail que dans ce que nous on dit. Encore que j'ai bien dit que ça existe aussi. Évidemment que certains Suédois trouvent peut-être leur vie d'un ennui mortel, comme en France on peut trouver notre vie d'un ennui mortel, alors que des Américains vont trouver ça absolument génial qu'on se nourrisse de vin et de fromage et fantasmer dessus. Mais c'est pas que du fantasme. Hein, en Suède, il y a quand même des choses réelles. On a juste voulu les extraire un petit peu de ce contexte.
Ulrika Dezé, vous qui êtes chercheuse en sciences de l'éducation, professeure de yoga et franco-suédoise.
Oui.
Sur ce mail que je viens de vous lire.
Alors je trouve que c'est assez typique en fait, si je peux me permettre de chercher souvent en fait dans nos expériences, de ce que je peux voir aussi ici en France, quelque part on favorise aussi à l'école l'esprit critique et de voir en premier lieu la négativité. C'est comme quelque chose de naturel, vous voyez. Et en Suède, on va dire c'est l'inverse. On va essayer de voir les aspects positifs de la société en premier lieu. Et là, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on est vraiment au cœur des deux sociétés.
Alexandre Jost de la Fabrique Spinoza.
Ce qui est amusant dans le propos de monsieur, c'est en fait il parle de lui d'une certaine manière. Et ce que pour moi, ce qu'on ne peut pas remettre en cause, c'est ce que les gens disent de leur propre perception.
Absolument.
Et quand on interroge les Suédois sur leur propre existence et qu'on agrège ces questions-là, on s'aperçoit que quels que soient les classements de l'OCDE, les classements du World Happiness Report, le report mondial sur le bonheur, qui prennent en compte des données subjectives et objectives, eh bien la Suède est toujours dans les 10 premiers pays et la France est toujours entre 20e et 35e. Et donc pour moi, on peut se dire ça ne nous correspond pas en tant que pays, mais on ne peut pas remettre en cause le vécu et les perceptions des Suédois par rapport à leur propre existence.
Alors sur les indicateurs fiables du bonheur en Suède, selon l'OCDE, la Suède obtient de très bons résultats dans de nombreux indicateurs du bien-être. La Suède se positionne au-dessus de la moyenne dans presque toutes les dimensions. La satisfaction à l'égard de la vie, le logement, les liens sociaux, l'engagement civique, l'équilibre vie professionnelle-vie privée, l'emploi, l'éducation, et c'est un rapport très sérieux de l'OCDE.
Oui, tout à fait. Le nombre de personnes qui vont voter, la confiance, même la richesse. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un pays qui est comme le lagom, qui est équilibré. C'est-à-dire qu'en regardant l'ensemble des critères qui font une vie bonne de manière relativement universelle, eh bien, ce pays se situe à un bon endroit.
La charge la plus virulente est venue de ce psychiatre. Dans un ouvrage, il dénonce la prise de pouvoir des enfants. Selon lui, cette éducation serait même un danger pour la société.
Les choses sont allées trop loin. Cela va engendrer une génération d'adultes perpétuellement insatisfaits.
Conscient de cette menace et souvent perdu face à des enfants trop gâtés, de plus en plus de parents prennent des cours d'éducation. Nous y retrouvons le père et la mère de Mathilda, encadrés par des psychologues. Systématiquement, Mathilda crie le matin et du coup, nous arrivons à chaque fois en retard à la crèche. Il faut que tu mettes des limites. Comment veux-tu que ta maison soit bien tenue sinon ? C'est un peu comme retourner à l'école, non ? Oui, un peu, et ce sont de bons professeurs.
En fait, c'est plus une sorte d'atelier où nous apprenons les uns des autres.
En tant que mère, je me suis rendu compte que le problème, ce n'était pas les enfants, mais que c'était moi et que je devais changer.
Une éducation bienveillante suédoise remise en question dans cet extrait du JT de France 2 en 2013. Ulrika Dezé, l'éducation bienveillante, c'est la norme. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. Et on a vu là quelques critiques qui commencent à poindre.
Oui, en fait, l'attention que l'on porte aux enfants est très très importante dans le quotidien, et où le jeu aussi va avoir sa place dans l'école. Par exemple, pour revenir au terme de logom, on va vraiment favoriser le jeu, quel que soit le temps. Par exemple, même par une tempête ou un temps glacial, on va vraiment favoriser le jeu à l'extérieur. On va s'habiller avec des vêtements très chauds. Pareil dans une classe, on va favoriser le dialogue entre les enfants, on va leur apprendre en fait à communiquer les uns avec les autres, mieux ressentir leurs émotions et être capable de les exprimer en classe. C'est-à-dire que l'enseignant va être plutôt quelqu'un qui va être comme un médiateur et moins comme moins prendre la posture de l'enseignant qui transmet du savoir. Il y a bien sûr la transmission du savoir, mais aussi les échanges qui sont favorisés et de développer la bienveillance entre les enfants pour une société aussi bien sûr ultimement qui va être plus calme et qui va mieux vivre, qui va être moins stressée, hein, parce que le stress aussi crée énormément de maux, que ça soit chez les enfants mais aussi chez les adultes. Et je pense que l'éducation à la suédoise elle va donner le plus possible des outils pour prévenir le stress et la maladie.
Alors, quitter son travail vers 17h sans être mal vu de sa hiérarchie ou de ses collègues pour aller justement aller chercher ses enfants à l'école, c'est vraiment la norme, sans être caricatural, Anne Toumieux ?
Oui, apparemment.
Le présentéisme, c'est mal vu.
Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même d'autres pays. Hein. Il y a des gens qui me disent « Ah, moi j'étais à Amsterdam, c'était comme ça. » Oui, en gros, si vous restez trop longtemps, c'est que vous n'avez pas été très efficace pendant la journée, quoi. Hein ? Tout simplement, quand on le dit comme ça, soudain, on se rend compte que c'est plein de bon sens. En France, on sait bien que c'est pas le cas, que partir à 17h, c'est un peu tôt, qu'on va peut-être nous regarder bizarrement. Et puis surtout, ce qui est important, c'est pas qu'on part à 17h pour aller boire un coup, c'est qu'on part à 17h pour aller chercher ses enfants. Et ça, je pense que c'est le début d'un cercle vertueux qui est assez profond, quoi qu'en disent les gens qui vont encore nous envoyer des mails. C'est-à-dire que forcément, un enfant, comme le disait Ulrika, il n'y a pas de babysitter pour ça. En tout cas, tous les jours qui viennent chercher les enfants. Les babysitters ne se substituent pas aux parents qui n'ont pas le temps. L'entreprise laisse le parent être un parent assez tôt dans la journée. Du coup, l'enfant est quand même dans une posture qui est hyper agréable. Hein. Tout le monde adore, quand on était petit, on adorait que nos parents viennent nous chercher plutôt que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et là, il y a quelque chose qui se passe à la maison que peut-être nous, on n'a pas en France. Et voilà, qui serait peut-être dur à mettre en place, mais qui en tout cas est forcément bénéfique.
Et puis, la répartition des tâches paritaire est beaucoup plus présente en Suède que chez nous, peut-être, Ulrika.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si ce n'était pas le cas, le couple ne pourrait pas vraiment survivre. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'imposé, mais vraiment, il y a une répartition des tâches au quotidien, où les enfants aussi participent aux tâches.
Il y a une étude qui montre que les couples les plus égalitaires ont deux fois moins de chances de divorcer. Et je pense que ça aussi, c'est une inspiration pour nous, Français.
C'est bon à méditer. Pierre Cerisier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'agence Reuters, auteur du blog Le Monde des Séries. Vous avez publié chez Vendémiaire L'Empire de la Mélancolie, l'univers des séries scandinaves. Les séries suédoises racontent les aspects les plus sombres de la société suédoise, l'envers du logom qu'on évoque un peu ce matin.
Oui, je pense que ces séries racontent en fait tout ce qui a trait à l'altérité, c'est-à-dire à la notion de l'autre. Parce que il faut quand même se souvenir que la Suède au départ est un pays qui est assez ethniquement homogène. Elle l'est de moins en moins par le phénomène de la mondialisation. Et on voit ça très bien dans les séries dont parlait Julien Bisson de Wallander, qui ont été adaptées à la télé, ou par exemple dans une série qui s'appelait Real Humans, donc 100% humain, qui avait été diffusée sur Arte et qui racontait une histoire de robots humains qui étaient mis au service des gens pour accomplir les tâches ménagères. Et on voit bien cette question de l'autre et comment il peut être intégré dans cette société homogène.
Anne Toumieux.
Oui, je pense que les choses changent forcément. La Suède aussi voit des... Enfin, il y a beaucoup de gens. Hein. Ulrika, tu veux en parler. Des étrangers qui viennent s'installer en Suède. Donc forcément, tu me disais peut-être que les Suédois étaient un petit peu dans leur cocon hein, pendant longtemps, protégés. Et puis que maintenant, forcément, ils doivent faire face à eux aussi, à vivre avec d'autres façons de vivre.
Ulrika Dezé, très rapidement.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est vrai que on va dire, ces 30 dernières années, la Suède aussi s'ouvre encore plus sur le monde. Nous avons aussi une langue rare, qui est donc l'anglais est une langue qui est généralisée, en fait, qu'on apprend très jeune à l'école, par exemple. Et notre ouverture d'esprit aussi nous permet, je pense, de pouvoir accueillir des populations de cultures différentes. Bien sûr, il y a un temps d'adaptation, mais je pense que la bienveillance est vraiment là dans le quotidien. Elle va nous permettre de mieux accueillir ces familles.
Merci Pierre Cerisier pour cette courte intervention. L'Empire de la Mélancolie, c'est votre ouvrage publié chez Vendémiaire.
Ah là là, j'aime bien ma petite chaise. Savez-vous où je l'ai achetée, cette chaise? Ikea. Comment tu sais? Comment t'as réagi au quart de tour? Ikea. Je la reconnais, le modèle Grigubruk.
On n'a pas le temps de trop s'attarder sur la décoration suédoise, mais c'est quoi l'esprit de la décoration suédoise qui ne se limite pas aux géants de la déco et de l'ameublement, aux objets imprononçables?
Bon, pour aller vite, en fait, je pense que les gens en plus savent déjà maintenant un petit peu ce que c'est, puisque la déco
aujourd'hui
scandinave, c'est devenu effectivement assez classique. Les principes sont simples, on allège l'intérieur, on enlève tous les petits objets qui encombrent et qui veulent rien dire, on va donner du sens aux meubles qu'on choisit d'avoir chez soi. Donc comme on le disait tout à l'heure, ça peut être un meuble de créateur, quelque chose de cher, hein. Le lagom n'empêche pas de se faire plaisir, mais on va en avoir un, on va lui faire une belle place à la maison, ou alors un meuble qui a du sens, ça va être la commode de la grand-mère, et il va y avoir un très beau meuble, et puis le reste, on va être dans la légèreté, et puis beaucoup de naturel, des plantes, des matières naturelles, du bois, et puis beaucoup de lumière.
Et pour en savoir plus donc sur l'art suédois du ni trop ni trop peu, je recommande votre livre, Anne Toumieux, le livre du lagom chez First. Merci beaucoup Ulrika Dezé d'être venue, et merci Alexandre Jost de la Fabrique Spinoza. Tout de suite, Julien Bisson, rédacteur en chef du 1. Alors, Julien Bisson, à la une du 1 cette semaine, c'est blanc qui se croit supérieur.
Oui, on se souvient tous des événements de Charlottesville, vous savez, cet été, avec la mort d'une manifestante contre les militants du Ku Klux Klan, avec la quasi-bénédiction du président Trump. On aurait tort de croire cependant que ces types-là ne se retrouvent que de l'autre côté de l'Atlantique. On a quelques abrutis un peu de notre côté également. Il suffit de se balader, notamment dans les tribunes des stades de foot. C'était le 1er septembre dernier, il y a des groupes de supporters allemands qui, lors d'un match contre la République tchèque, ont sifflé l'hymne national et entonné des chants nazis. Ce qui passe pas très bien dans un pays qui est encore marqué par le souvenir de l'extrême droite. En Angleterre, c'est le club UP de Chelsea, vous savez, celui dont les supporters s'étaient déjà fait connaître à Paris en expulsant du métro un supporter au cri de « We're racist, we're racist ».
Ils avaient expulsé un noir du métro.
Exactement, un franco-mauritanien. Eux, c'est mi-septembre, ils ont un nouvel attaquant vedette, un espagnol, Alvaro Morata, et ils ont trouvé un chant formidable pour lui, « Alvaro, Alvaro, il vient de Madrid, il est les putains de Youpin ». Dans leur viseur, les supporters du club adverse de Tottenham sont censés compter davantage de juifs parmi leurs supporters. En Italie, en Espagne, dans les pays de l'Est, là, on aime plutôt les cris de singe quand ce ne sont pas de vraies bananes qui sont jetées sur le terrain, comme celle qu'avait reçue le Brésilien Dani Alves, qui avait eu ce geste un peu ironique. Il avait pris la banane et gobé la banane juste avant de tirer son corner. C'est très bien, c'est un geste très ironique, mais qui ne doit pas masquer la réalité des stades où fleurissent, vous savez, les symboles du white power. Les croix gammées sont généralement interdites, mais si vous voyez des croix celtiques, des triskels, des aigles nazis, des points blancs ou le chiffre 88 pour Heil Hitler, sachez que vous avez sans doute affaire à des groupuscules néo-nazis. Alors pourquoi une telle démonstration d'actes et de propos racistes dans les stades? Karine Bloch du comité éthique et sport nous dit « Le racisme n'est pas propre au football, mais ce dernier offre une caisse de résonance unique au mouvement identitaire. Les tribunes sont un bon lieu de recrutement pour ces groupes, notamment auprès de jeunes gens, parfois en situation d'échec. »
Alors la France est-elle épargnée par ces débats débordement raciste?
Pas franchement. Il y a eu beaucoup d'exemples de manifestations racistes au cours des dernières années. Il y a eu une croix celtique humaine qui a été formée par des supporters lillois, des insultes homophobes dans le stade de Bastia, notamment l'année dernière. Et puis, vous savez, au Parc des Princes, dès les années 80, on avait des groupes de skinheads qui avaient envahi le Parc des Princes et qui avaient ensuite été dissous après la mort de deux supporters. Non, en gros, la France a plutôt mis en place ces dernières années des politiques assez offensives qui ont permis de notamment pour d'enlever des points aux clubs de football, de permis d'interdire des stades, mais c'est pas encore résolu. Et notamment, ce que nous disent les experts, c'est que c'est maintenant dans le football amateur que qu'agissent et recrutent les groupes les plus extrémistes.
Et je recommande vraiment ce numéro du 1, ces blancs qui se croient supérieurs. Merci beaucoup, Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire. Demain, je vous propose un entretien exceptionnel avec l'historien Yuval Noah Harari. Après le succès mondial de Sapiens, Yuval Noah Harari publie Homo Deus, une brève histoire de l'avenir qui raconte le surhomme de demain en quête d'immortalité et de bonheur perpétuel, tel que le rêve les titans des nouvelles technologies. Yuval Noah Harari, demain à 10h. Dans Grand Main vous fasse.